Nous sommes évidemment tous d'accord qu'il faut maintenant que les choses changent, mais il faut qu'elles changent non pas dans l'anarchie, mais dans un mouvement puissant, organisé, 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 organisé.
Vous êtes sur Alternante FM, voici Nouvelle Donne, Vieille Rengaine. Auditrice, auditeur d'Alternante FM, je suis heureux de vous retrouver pour Nouvelle Donne, Vieille Rengaine. Au sommaire de ce troisième numéro, quelques réflexions sur le conflit israélo-palestinien et sur les récentes élections législatives en Turquie. Je vous parlerai ensuite du livre d'un philosophe québécois, Louis Marion, au titre terrible « Comment exister encore ?» un livre court et incisif sur le capitalisme et la destruction des écosystèmes. Après la traditionnelle revue de presse, viendra le temps d'une pièce radiophonique dont les protagonistes sont deux travailleurs d'une boîte quelconque qui se disputent autour d'une question « À qui doit-on verser la prime de résultat ?» Puis je vous offrirai deux nouveaux épisodes de notre feuilleton radiophonique sur le capitalisme et les luttes sociales. Cette semaine, je vous parlerai de la question du temps de travail à l'époque moderne et de la révolte des tisserands anglais au début du XIXe siècle, autrement dit, je vous parlerai du mouvement ludite. J'aimerais dédier cette émission à Raymond. Raymond est mort à l'âge de 75 ans, un jour d'août 2011. Cet ancien intermittent du spectacle, ne pouvant plus vivre dignement du fait de sa retraite minable, avait repris du service. Il travaillait chez Adrexo à distribuer les prospectus dans les boîtes aux lettres. De santé fragile, déjà victime par le passé d'un ennui cardiaque, il n'aurait jamais dû se remettre à un turbin aussi physique qui l'obligeait à soulever et porter des centaines de catalogues par jour. À aucun moment, il n'a passé de visite médicale. Et puis voilà, un soir, son cœur a lâché. À aucun moment, son employeur ne s'est inquiété de ne plus le voir au travail. Pour preuve, pendant 8 mois, il a continué à émettre des bulletins de paix à son nom d'un montant de 0 €. Ce n'est qu'en avril 2012 qu'il se décidera à rompre unilatéralement le dit contrat pour, je cite, « absence injustifiée ». Édifiant, non. J'aimerais dédier cette émission à Zied, Bouna et Rémi, deux adolescents, un jeune adulte décédé. La faute à pas de chance, comme on dit, puisque visiblement, dans le premier cas, la justice indépendante et sereine a innocenté les forces de l'ordre. Dans le second cas, l'enquête traîne en longueur mais ne semble guère s'orienter vers une inculpation des gardes mobiles. Nous voilà rassurés, l'état de droit est entre de bonnes mains, mais qui en doutait? J'aime enfin dédier cette émission à la mémoire de Jean Caron, dont le fils Olivier fut animateur sur les ondes d'Alternante FM durant de longues années, notamment avec les petits mutins du grand soir. À titre professionnel, j'avais aidé Jean Caron à publier ses mémoires d'ouvrier de l'aéronautique nazérienne aux éditions du Centre d'Histoire du Travail. À titre amical, je lui avais filé un coup de main pour que voie le jour son vrai faux témoignage d'ancien conseiller municipal d'une commune de l'Ouest. Homme de gauche, peu porté à la radicalité, Jean n'en portait pas moins un regard critique sur la démocratie représentative, sur les arrivistes et les prétentieux, les idiots utiles et les béni-oui-oui. Jean est décédé le 28 octobre dernier. Sa bonne humeur communicative, ses coups de gueule contre l'ordre du monde et son humour décapant manqueront à beaucoup.
Operai, operaie, vi parlo a nome dei vostri compagni studenti. Sono le 8 del mattino.
Nouvelle Donne, Vieille Rengaine, l'actualité.
Sarà già buio per voi la luce del sole.
La situation s'est de nouveau tendue ces dernières semaines en Israël et notamment à Jérusalem. Je pourrais parler d'un nouveau cycle de violence, mais ce serait oublier que la violence, politique, sociale, symbolique, est la compagne de chaque jour pour les Palestiniens des territoires comme pour ceux de l'intérieur. La violence comme l'hypocrisie. Le 14 octobre dernier, un journaliste du Maariv Hashavua, un quotidien de la droite israélienne, a livré son analyse de ce qu'il appelle la vague de terreur. On peut y dire ceci. On peut estimer que 99% de la population palestinienne de Jérusalem n'est pas partie prenante du conflit actuel. Il n'en reste pas moins que quelques dizaines de terroristes sont parvenus à faire voler en éclats les dernières illusions que nous pouvions entretenir quant à l'idée d'une coexistence pacifique entre juifs et arabes à Jérusalem. Je crains que ce journaliste se leurre, et je crois qu'il nous leurre. Il se leurre parce que ce n'est pas une infime minorité de la population palestinienne de Jérusalem, comme il le laisse entendre, ce ne sont pas quelques dizaines de terroristes qui acceptent de voir les territoires palestiniens se réduire comme peau de chagrin et les colonies se développer le long de la ligne verte. Rappelons pour mémoire que la superficie de la municipalité de Jérusalem a été multipliée par 6 depuis 1948. Et rappelons qu'une loi fondamentale votée à la Knesset en juillet 1980 a fait de Jérusalem, une et indivisible, la capitale éternelle de l'État d'Israël. Certes, la population palestinienne de Jérusalem-Est a un statut particulier, puisqu'elle peut détenir la carte d'identité israélienne, ce qui lui donne accès à certains droits sociaux et politiques, comme celui de voter aux élections municipales. Mais le fait qu'il n'y ait que 5% des électeurs palestiniens qui accomplissent leur devoir électoral souligne à quel point, dans leur immense majorité, les Palestiniens de Jérusalem-Est ne se résignent ni à l'occupation, ni à l'étouffement. Ce journaliste nous leurre également en déclarant que cette vague de terreur a fait voler en éclats l'espoir de paix. De quel espoir de paix parlait-il? Cela fait belle lurette que la paix n'est plus à l'ordre du jour. La classe politique israélienne n'en veut pas, ni à droite, ni dans ce qui reste de la gauche travailliste. Si elle voulait la paix, elle cesserait de multiplier les implantations. En Cisjordanie, dans ce qu'on appelle la zone C, ce qui correspond à 60% du territoire, les colons sont dorénavant majoritaires. On en compte 340 000 contre 300 000 Palestiniens. Bah, pourquoi se gênerait-elle? Le Likoud et le gouvernement défendent le droit des Juifs à coloniser la Judée-Samarie, autrement dit la Cisjordanie, voire même son annexion totale ou partielle. Si elle voulait la paix, cette classe politique israélienne, elle cesserait de détruire les plantations d'arbres fruitiers ou de priver d'eau Gaza, cette immense prison à ciel ouvert. Elle cesserait de garder pour elle les recettes douanières qui reviennent de droit à l'autorité palestinienne. Elle cesserait en fait de faire le jeu de ceux qui, en face, veulent continuer à en découdre militairement. Notre journaliste du Maariv Hashavua a une autre idée pour dissuader les passagers à l'acte terroriste. Ils considèrent que détruire leur maison n'est pas une sanction suffisamment exemplaire. Non, ils proposent, je cite, « d'expulser les familles des tueurs au couteau vers la bande de Gaza. De cette manière, avant de brandir leurs poignards, les tueurs sauraient d'avance à quel sort misérable ils condamneraient leurs familles et y réfléchiraient à deux fois. » Ah, il a raison. En l'espace de 6 ans, Gaza a subi 3 opérations militaires, décembre 2008, novembre 2012. Et été 2014. Des opérations militaires qui ont fini de la dévaster. Écoles, hôpitaux, centres de santé, habitations, puits, réseaux d'eau potable et d'assainissement, usines, commerces. Près de 4000 Palestiniens ont perdu la vie contre un peu moins de 100 Israéliens dont la plupart étaient des militaires. La preuve que Tsahal ne se bat pas au couteau. Gaza n'est plus qu'un champ de ruines sur lequel ne peut pousser que la misère, la haine et le désir de vengeance. La politique de l'État israélien à l'humiliation comme seule boussole, et pour se préserver de la contre-violence palestinienne, elle ne sait que construire des murs. C'est d'ailleurs le projet de Netanyahou. Isolé par un mur de 5 mètres de haut, le quartier juif de Talpiot Est, qui jouxte le quartier palestinien de Jabal Moukaber. On se rassure comme on peut. Mais l'État israélien aura besoin de bien plus qu'un mur pour assurer sa survie. En juillet dernier, la CNUSED, organisme dépendant de l'ONU, a rendu un rapport sur la situation en Palestine. On peut y lire au chapitre « Impact durable sur le capital humain et l'économie » les mots suivants. En mai 2015, 20% de la population de Gaza, soit 300 000 personnes, nécessitait un traitement pour des problèmes de santé mentale. S'agissant des enfants, à savoir l'avenir du capital humain de Gaza, 521 d'entre eux ont perdu la vie, 1000 environ ont été blessés et 400 000 ont un besoin urgent d'un soutien psychosocial. Bon, passons sur le terme « capital humain » utilisé par nos technocrates pour ne garder que l'essentiel. La politique israélienne ne produit pas que de la misère, de la colère, de la frustration. Elle produit également, massivement, de la déraison. La classe politique israélienne a besoin de cet état de guerre pour survivre. Durant des décennies, les différents conflits ayant opposé Israël et ses voisins arabes lui ont permis d'affermir le sentiment national. Israël, terre de pionniers, Israël et ses citoyens soldats, Israël la socialiste avec ses kibbutz, Israël, pays démocratique, pointe avancée de l'Occident en terre arabe, etc., etc. La classe politique israélienne a besoin de cet état de tension parce qu'il permet que ce soit l'urgence qui gouverne. C'est au nom de l'urgence qu'il y a à se défendre et à se prémunir que l'on bâtit des murs, que l'on expulse des villages, que l'on implante des colonies. L'État d'Israël a besoin d'une guerre, même de basse intensité, pour faire sentir aux citoyens juifs d'Israël que l'ennemi est toujours là. Sans cette dictature de l'urgence, la classe politique israélienne serait mise dans l'obligation de répondre prioritairement aux attentes sociales des citoyens de toute confession. Sans cette dictature de l'urgence, la classe politique israélienne serait obligée de se positionner concrètement sur la nature même de l'État d'Israël qui se dit à la fois juif et démocratique. Or, avec cette définition ethno-religieuse de l'État d'Israël, les sionistes d'hier et d'aujourd'hui ont condamné de fait une partie des citoyens, laïcs, chrétiens, musulmans, à la marginalisation politique et sociale. Grâce à cette dictature de l'urgence, la classe politique israélienne s'accorde un sursis, le temps de bâtir, derrière de hauts murs, une citadelle assiégée, soudée par la paranoïa.
On parle beaucoup des quelques dizaines d'agités.
Nouvelle Donne, Vieille Rengaine.
Qui ne travaillent pas.
L'actualité.
Qui empêche les autres de travailler.
Recep Tayyip Erdogan a réussi son pari. Avec 49% des suffrages exprimés et plus de 310 députés sur 550, il est parvenu à faire de son parti, l'AKP, la force hégémonique de la scène politique turque, une force telle qu'elle peut se passer d'alliance pour gouverner. Rappelez-vous, en juin dernier, le parti d'Erdogan subissait un camouflet. Première force politique du pays depuis plus de 10 ans, il espérait à l'occasion des élections législatives rafler la majorité absolue et faire voter dans la foulée son projet de réforme constitutionnelle qui aurait fait de la Turquie un régime à caractère présidentiel. Malheureusement pour Erdogan, l'opposition à son pouvoir de plus en plus autocratique bouscula ses prévisions, notamment un petit parti fourre-tout, le HDP, lié au mouvement kurde et aux nouveaux mouvements sociaux qui fit son entrée au Parlement. Erdogan a choisi alors la manière forte. Incapable et sans doute peu désireux de constituer une alliance post-électorale pour gouverner, Erdogan est allé à l'affrontement, choisissant de punir les Kurdes. Pourquoi les Kurdes ? Parce que pendant une décennie, Erdogan a cherché à s'allier avec les secteurs kurdes les plus traditionnalistes et conservateurs qui, au nom de l'islam, lui apportèrent leur suffrage. En retour, Erdogan promettait de régler la question kurde non plus par la violence comme auparavant, mais par la négociation et la reconnaissance de l'identité kurde dans l'ensemble national turc. En juin dernier, il s'est aperçu que l'AKP avait perdu beaucoup de voix dans l'est du pays, majoritairement kurde, ce qui signifiait que, lassé de ne pas voir les choses avancer plus promptement, les Kurdes avaient voté massivement pour le HDP. Depuis le mois de juin, la situation politique intérieure s'est donc profondément dégradée. Une atmosphère de lynchage s'est installée dans l'ouest du pays, où des Kurdes ont été plus que mal menés, et le HDP a subi des attaques en règle de ses locaux. Dans l'est du pays, nous avons assisté à la militarisation des espaces kurdes, tandis qu'au-delà des frontières, en Syrie, l'armée turque s'en prenait avec violence à Daesh, mais surtout aux Kurdes, pourtant soutenus par les États-Unis, l'allié fidèle de la Turquie. Sans oublier bien sûr les attentats qui ont endeuillé le pays à Tchouruç en juillet, à Ankara dernièrement, dont les Kurdes et militants du HDP furent les victimes essentielles. Des attentats que les autorités ont mis sur le dos de Daesh, mais que les Kurdes ont très vite interprété comme une manipulation du pouvoir ou des secteurs les plus nationalistes de l'armée. Erdogan a donc gagné son pari. Il a parié sur la peur du chaos et du désordre et il a gagné. Il a misé sur le nationalisme xénophobe anti-kurde et il a gagné. Pourtant, la plupart des observateurs, les yeux rivés sur les sondages, pensaient que ces élections d'octobre ne seraient qu'un décalque de celles de juin. Mais les sondages ont été trahis par les électeurs. Il semble que l'AKP d'Erdogan ait séduit une partie des électeurs du très droitier Parti d'Action Nationaliste et qu'à l'inverse, le HDP ait perdu une partie de son électorat, 1 million de voix. Sans doute, sa frange la moins attirée par la problématique kurde ou la plus effrayée par l'atmosphère de violence visant le HDP et donc les risques de répression pouvant toucher ses partisans. Erdogan a gagné, sauf pour son projet de réforme constitutionnelle, puisqu'il devra trouver, hors AKP, une quinzaine ou vingtaine de députés pour faire passer son projet. Certains députés iront-ils à la gamelle? Ce sera l'enjeu des prochains jours. Erdogan a gagné, mais quoi au juste? Quelle validité ces élections peuvent-elles avoir quand, sur une partie du territoire national, à l'Est, l'armée sillonne, réprime, arrête, bastonne, liquide? Les Kurdes ont-ils voté librement? Le PKK, ou plus précisément, son aile la plus radicale et la moins convaincue de la stratégie d'ouverture développée par le HDP en direction des Turcs, sort-il affaibli de ce scrutin? Non. Non, la répression ne peut que renforcer ceux qui pensent que les discours d'Erdogan en direction des Kurdes n'étaient que poudre aux yeux, qu'en somme, seule la lutte armée est en capacité de contraindre l'État turc à un compromis. Erdogan a gagné le droit d'envoyer l'armée se refaire les crocs en zone kurde. Il a gagné le droit de se rêver en sultan moderne, à la tête d'une Turquie ottomanisée, où État fort, capitalisme et conservatisme religieux se tiennent bras dessus, puisque business et Allah, on l'oublie trop souvent, ne sont nullement incompatibles.
Thank you. Lolo.
Nouvelle donne, vieille rengaine.
Quando ti ricoverano.
Les notes de lecture.
Porta le armi.
Comment exister encore? Tel est le titre du dernier livre du philosophe québécois Louis Marion, publié par les éditions Éco-Société. Livre court mais dense, livre réquisitoire contre le monde tel qu'il est. Louis Marion est objecteur de croissance. Sa critique de la croissance, de cette indispensable croissance dont on doit tout attendre, ne l'amène pas à faire de l'homme, avec un H majuscule, le responsable d'un tel désastre humain et écosystémique. Non, l'homme n'est pas un loup pour son semblable, un prédateur insatiable. L'homme, avec un grand H, n'existe pas. Il n'y a que des hommes sans majuscule, aux prises dorénavant avec un système qu'ils ont créé et dont la logique mortifère les dépasse de plus en plus. Pour appuyer sa thèse, Louis Marion convoque des penseurs incontournables comme Karl Marx ou Jacques Ellul, et des auteurs plus confidentiels, hormis dans quelques cercles intellectuels d'extrême-gauche, comme Moïse Poston ou Anselme Japp. Mais son auteur de référence demeure le philosophe allemand Günther Anders, dont il est devenu l'un des spécialistes. En moins de 200 pages, Louis Marion propose une critique radicale du capitalisme, nous rappelant qu'il n'est pas une façon de produire des richesses, mais une volonté de transformer tout en marchandises, autrement dit, en valeur d'échange, y compris le travail humain. C'est pourquoi, nous dit-il, sortir du capitalisme signifie supprimer la marchandise. Critique également du libéralisme politique et de l'individualisme sur lequel il repose et qui se conjugue aujourd'hui sur le mode du coaching tout azimut, de l'atomisation et du mal-être. L'individu n'est-il pas maître de sa vie et de sa destinée, entrepreneur de lui-même et de ses capitaux? Critique également de la technophilie et de la doxa néolibérale, de la mainmise sur nos vies des machines, des manipulations langagières et de la propagande télévisuelle. Critique aussi radicale qu'argumentée, parfois exigeante, est placée sous le signe de l'urgence, car urgence il y a. Comme il le souligne en introduction, l'urgence est de sauvegarder ce qui peut l'être encore, ce qui reste de la nature contre la puissance de l'être humain. L'auteur nous appelle à mieux penser l'engagement politique, à incarner face à la dévastation à grande échelle opérée par l'économie capitaliste, néolibérale, productiviste, spectaculaire et marchande. Contre le sectarisme des tribus survivalistes individualistes impuissantes, il plaide pour le développement de mouvements sociaux, remettant en cause radicalement les fondements de nos sociétés modernes, avec son fétichisme de la marchandise, son culte de la bagnole, son éloge de la croissance et du développement. Contre les rêves de capitalisme vert, les fausses alternatives, Louis Marion nous rappelle que combattre les effets du capitalisme ne suffit pas, il faut combattre le capitalisme lui-même, car ce dernier est capable de se nourrir de ses propres effets dommageables, de ses propres contradictions. Circuit court, reterritorialisation des activités productives, décentralisation des modes de production d'énergie, développement des monnaies locales, baisse du temps de travail, développement de la permaculture urbaine, les idées ne manquent pas. L'important étant qu'on apprenne à, dixit Louis Marion, s'épanouir sans le capital. Louis Marion ne nous dit pas si, pour nous sauver de la catastrophe annoncée, il nous faudra prendre d'assaut le palais d'hiver, si, en d'autres termes, l'abolition du capitalisme et du monde qui va avec se fera avec les armes de la critique ou nécessitera la critique des armes. Qui vivra, verra. Je ne puis que vous conseiller donc la lecture de ce livre, Louis Marion, Comment exister encore, Capital, Technoscience et Domination, publié cette année par Éco-Société.
Nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rembrouillent. Aïe la vache.
Nouvelle donne, vieille rengaine, la revue de presse.
Pousse-toi. Dans la main, il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées.
Outre la lecture quotidienne de Mediapart et celle hebdomadaire de Courrier International, je vous conseille de jeter un œil sur quelques mensuels disponibles en kiosque ainsi qu'en bibliothèque. Dans son numéro de novembre, Alternative économique consacre son dossier central aux inégalités de développement dans l'Hexagone avec le développement de ce qu'on appelle la métropolisation, condition indispensable à en croire les décideurs si l'on veut se vendre à l'international, attirer les investisseurs potentiels, faire flamber le prix de l'immobilier et expulser les salariés petits et moyens du cœur des villes. Vous y trouverez également un article sur la Turquie au bord du chaos, le partenariat transpacifique, la nouvelle arme américaine censée contenir la puissance chinoise, ainsi qu'un article intéressant sur la question des bas salaires aux États-Unis. Je vous signale également qu'Alternative économique a sorti tout récemment son désormais classique hors-série intitulé « Les chiffres 2016 », une sorte d'état des lieux de la situation économique en France et dans le monde. Du côté du Monde diplomatique de novembre, le dossier central est de circonstance puisqu'il traite du chaos climatique qui sera au cœur des discussions de la COP21 qui s'ouvre à la fin de ce mois à Paris. Également au sommaire des articles sur la politique de Poutine en Syrie, la liberté de la presse en danger en Égypte, ou la politique pénale aux Pays-Bas qui ne fait plus de l'incarcération l'alpha et l'oméga de toute bonne politique répressive. La COP21 est également à l'honneur d'Alternative Internationale, hors série numéro 17 qui titre « Climat, les solutions pour sauver la planète ». En une cinquantaine d'articles, chercheurs et journalistes nous donnent des raisons d'espérer dans la capacité des individus et des institutions à cesser de détruire à vitesse grand V notre belle planète bleue. Pour preuve, ces mots optimistes d'Antoine de Ravignan en guise d'introduction. Ceux qui vivent et partagent l'idée que la transition écologique globale passe par plus de justice sociale et par les 1000 petites conversions dans les comportements individuels sont de plus en plus nombreux sur cette planète. Ah, il a peut-être raison, mais ces mots sonnent bizarrement quand on sait que les gouvernements français, allemands et britanniques ont autorisé fin octobre les groupes automobiles à dépasser de 110% les normes anti-pollution fixées à Bruxelles. C'est Volkswagen et ses copains qui vont être contents. Le Turbin, une cantine, une cause.
T'as vu qui va avoir la prime à l'atelier B?
Non.
Karim.
Karim.
Bah, Karim Mohamed machin.
Ah, Karim Mohamedi.
Ouais, c'est ça.
Ah, bien, bien.
Pourquoi bien?
Bah, parce qu'il le mérite.
Pas plus qu'un autre.
Tu penses à Gilbert? Il sait faire que brailler.
Non, pas Gilbert, mais...
Ouais, non, mais cherche pas, hein.
Il y a Didier.
Didier. Un gramme dans chaque poche à 10h le matin. Non, mais sois honnête, Karim, il est super apprécié par les gars. Il bosse bien, il est fiable. Il a fait une formation l'an passé, et même s'il est monté en grade, ça l'empêche pas de débrayer.
Tu dis ça pour moi?
Non.
Ouais, n'empêche que moi, je trouve pas ça très judicieux.
De quoi? De refiler une prime à un gars professionnellement irréprochable? Oh bah c'est sûr, hein. Vu que d'ordinaire, le patron récompense les faux d'herche.
Je veux dire que je trouve pas ça judicieux dans la France d'aujourd'hui.
Je comprends pas.
Je veux dire que je trouve pas judicieux de donner une prime à un étranger, dans un pays où le Front National fait 20%.
Bah Karim, il est pas étranger. Il est né ici, dans la cité. Je te rappelle qu'on n'était pas voisins de palier, mais presque.
Quand je dis étranger, je veux dire musulman.
Karim, musulman? Mais tu l'as vu faire sa prière? Il la fait pas. Quand on fait un truc, il boit une bière comme tout le monde. Sa femme, elle est pas voilée.
Il mange pas de porc.
Oh, il mange pas de porc. Mais ça, c'est plus culturel que religieux. Tous mes copains arabes, ils mangeaient pas de porc parce que dans leur famille, on n'en bouffe pas. Voilà tout.
Ok. Mais tu veux pas comprendre ce que je dis. En France, aujourd'hui, je trouve pas judicieux de donner une prime à un arabe alors que des Français tirent le diable par la queue.
Mais bon Dieu, mais Karim est français, bordel. Il est né là, à 10 km d'ici, à vue de nez.
Ouais, mais son père...
Mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, son père?
Bah...
Ah non, eh oh, Karim est français, point barre. Il est né là, il a toujours vécu là, il a toujours bossé là, il crèvera là. Il est français, que ça plaise ou non. Tu l'es pas plus si ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père est mort à Waterloo, bordel de merde. Mais t'es raciste ou quoi?
Moi, raciste?
Oh, bah écoute, je vois pas où tu veux en venir.
Je veux juste te dire que dans une France où il y a des racistes, si on veut pas qu'il y en ait plus, eh ben, faut pas frimer.
Frimer?
Ouais, frimer.
Bah, il frime, Karim? Il a léché des culs pour avoir sa prime?
Non, mais...
Mais quoi?
Ça va faire causer, cette affaire.
Faire causer qui? Les deux, trois cons qui passent leur temps à baver sur les autres à l'heure de l'apéro?
Pas seulement. Il y en a qui vont encore dire que c'est toujours les Arabes qui passent en premier.
Non, mais pour les licenciements, c'est sûr, hein, personne leur pique la place. Hein. Non, mais si je te comprends bien, il faudrait qu'ils refusent la prime.
Ouais.
Pour faire plaisir à ceux qui considèrent qu'il n'est qu'un bougnoule, tout juste bon à faire le bougnoule, et qu'en raison de sa bougnoulitude, il n'a pas à encadrer une équipe. Hein. Un bougnoule, ça doit bougnouler et fermer sa gueule, c'est ça.
Ouais, on peut pas discuter avec toi.
Mais discuter de quoi, bordel? À partir de quand un Français est véritablement Français?
Non, mais...
Bah discuter de quoi, bordel? Si tu veux qu'on discute de ces primes à la con qui énervent tout le monde, qui font que tout le monde s'épie et bavasse, et ceci et cela, tatati et tatata, eh bien on en discute. Au syndicat, on était contre, je te le rappelle. Et toi?
Moi?
Bah oui, rappelle-toi, moi j'ai de la mémoire.
Bah moi j'étais pas pour... Moi j'étais pas totalement contre non plus. Si ça récompense pas des tirs au flanc, moi je suis pour.
Et Karim, c'est un tir au flanc?
Non.
Bah alors, tu devrais être content.
Ouais, mais... Bon, allez, parlons d'autre chose. Et passe-moi le sel, s'il te plaît.
con questo muro. Un muro. Il muro. Giù. Giù.
Capitalisme, individus et société, feuilleton radiophonique sur l'histoire du mouvement ouvrier. Pendant des siècles et des siècles, les peuples vécurent sans montre au poignet. Le paysan travaillait dur à des périodes particulières de l'année, lors des plantations et des récoltes par exemple, et demeurait soumis aux caprices de la météorologie. L'artisan, maître de son activité, alternait les périodes de travail intense et les périodes de relative tranquillité en fonction de son carnet de commandes et de ses envies. Avec la création des fabriques, qui rassemblent des ouvriers qualifiés sous le contrôle d'un patron, le temps prend une autre importance. Nous voici dans les fonderies Crawley, dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Le patron, qui est un vieil autocrate, entend tirer le maximum de profit de ses travailleurs qu'il paie à la journée de travail. Parce qu'il a constaté que nombre d'entre eux lui sont déloyaux et s'échappent trop souvent à son goût de leur établi pour gagner les cabarets, il nomme un contremaître afin, je cite, « de repérer les paresseuses et les canailles et de récompenser les justes et les dévoués ». Car les ouvriers de l'époque, qui ont gardé une mentalité d'artisan, entendent rester maîtres de la gestion de leur temps de travail. Cela apparaît particulièrement dans l'alinéa 31 de l'article 103 du dit règlement des fonderies Crawley. Je cite « Ayant été informé que certains employés ont été assez malhonnêtes pour régler l'heure de la cloche de sortie sur l'horloge qui avançait le plus et l'heure de la cloche d'entrée sur l'horloge qui retardait le plus, j'ordonne par la présente que personne sous aucun prétexte ne tienne compte d'aucune horloge, cloche, montre, cadran, autre que l'horloge du contremaître, qui ne sera elle-même réglée que par son dépositaire officiel. » Derrière cette question du temps qui est de l'argent, il y a la question de la disciplinarisation du travailleur. L'homme doit être attaché à son poste de travail durant toute la journée de travail. Sa liberté est désormais surveillée. À la fin du XIXe siècle, avec le taylorisme, le patronat moderne s'évertue à maximiser le temps de travail ouvrier en organisant scientifiquement le travail. Frederick Winslow Taylor, le célèbre Taylor, justifie comme suit son combat contre la flânerie ouvrière. La paresse naturelle des hommes est grave, mais le mal de beaucoup le plus grand, dont souffrent ouvriers et patrons, est la flânerie systématique, à peu près universelle, touchant tous les systèmes ordinaires d'organisation. Celle-ci résulte d'une étude attentive de la part des ouvriers de ce qui favoriserait leur meilleur intérêt. L'auteur écoutait récemment avec intérêt un petit apprenti de 12 ans, déjà expérimenté, expliquant à un apprenti plus neuf, qui avait témoigné d'une énergie et d'un entrain spéciaux, la nécessité d'aller lentement et lui démontrant que puisqu'ils étaient payés à l'heure, plus ils allaient vite, moins ils gagnaient d'argent. La majeure partie de la flânerie systématique est pratiquée par des ouvriers avec l'intention délibérée de tenir leur patron dans l'ignorance de la vitesse à laquelle on peut faire un travail. Cette flânerie est si universellement pratiquée dans ce but qu'on aurait peine à trouver dans un grand établissement un ouvrier travaillant à la journée ou aux pièces, à l'entreprise ou suivant tout autre système ordinaire, qui ne passe une partie considérable de son temps à étudier quelle est la juste lenteur avec laquelle il doit travailler pour convaincre encore son patron qu'il marche à la bonne allure. Les causes de cet état de choses sont que, pratiquement, tous les patrons se fixent une somme maximum qu'ils croient équitable d'attribuer par journée à chacune de leurs catégories d'employés, que ceux-ci travaillent à la journée ou aux pièces. Chaque ouvrier a tôt fait de déterminer le chiffre qui s'applique à son cas. Et il se convainc également que si son patron se persuadait qu'un ouvrier est capable de faire plus que lui ne produit, il trouverait tôt ou tard le moyen de forcer son ouvrier à fournir le supplément de travail avec peu ou pas d'augmentation de salaire. Fin de citation. Plus tard, le patronat s'efforce de fixer la main-d'œuvre pour en disposer tout le temps. Si certaines industries sont saisonnières, comme les conserveries, et se satisfont pleinement de disposer d'une main-d'œuvre qu'au moment de pointe, et il n'en va pas de même pour d'autres industries qui ont besoin d'une main-d'œuvre permanente. Il faut donc sédentariser ce prolétariat qui change de patron régulièrement et n'hésite pas à regagner sa campagne à l'été pour participer aux travaux des champs. Au XIXe siècle, cette sédentarisation sera facilitée par deux dispositifs. Le premier sera répressif et prend la forme d'un livret. Le livret ouvrier
apparaît sous l'Ancien Régime, 1781, plus exactement, dans le but de contrôler les mouvements des ouvriers qui font leur tour de France, de surveiller également les migrants saisonniers ou les ouvriers des chantiers publics qui sont redoutés car susceptibles de provoquer des troubles sociaux. Il contient des éléments pour identifier l'ouvrier. La carte d'identité n'existe pas à l'époque. Mais il contient des pages sur lesquelles sont enregistrés les ateliers dans lesquels l'ouvrier a travaillé. À l'époque, le livret doit être signé par un commissaire de police ou un représentant de la ville quand l'ouvrier quitte un patron et la ville. Il doit indiquer le lieu où il entend se rendre pour y trouver de l'embauche. Tout ouvrier voyageant sans son livret est considéré comme un vagabond et risque ainsi l'arrestation et l'incarcération. Supprimé lors de la Révolution française, il est remis en circulation sous le consulat en 1803 afin de domestiquer le nomadisme des ouvriers. Et jusqu'en 1854, c'est le patron qui conserve le livret de son employé, façon comme une autre de lui indiquer qu'il n'est pas libre de partir comme bon lui semble. Le livret ouvrier cessera d'exister à la fin du XIXe siècle. Le second dispositif, dont je vous parlerai bientôt, a un caractère social, on l'appelle le paternalisme. Capitalisme, individu et société, feuilleton radiophonique sur l'histoire du mouvement ouvrier. Dans l'Angleterre de la Révolution industrielle, au début du XIXe siècle, à partir de 1811 et pendant une poignée d'années, dans un triangle formé par les villes de York, Manchester et Leicester, des travailleurs du textile ont détruit nombre de machines à tisser, revendiquant leur action du nom d'un invisible général, Ned Ludd. Le sens commun ne retint du luddisme que deux sens. L'action de détruire les machines, d'une part, la haine de la technologie, d'autre part. Or, les luddites ne cassaient pas les machines parce qu'elles incarnaient le progrès technique. Ils les cassaient parce qu'elles signaient leur arrêt de mort en tant que travailleurs indépendants, en tant que communauté humaine. L'irruption de ces machines à tisser, à tricoter, de ces tondeuses mécaniques ne réduisait pas seulement la plupart d'entre eux au chômage, ne les poussait pas seulement à quitter leur village pour aller quérir ailleurs de l'emploi, ne transformait pas seulement ces travailleurs artisans, maîtres de leur temps de travail, en prolétaires ouvriers soumis au rythme de la machine. Non, l'irruption de la modernité signait l'arrêt de mort de tout un monde reposant sur la vie communautaire autonome, un système d'échanges locaux et de troc, une tradition de divers métiers, un brassage de coutumes, etc. En clair, cette entreprise de modernisation technique industrielle fut simultanément une entreprise de déculturation. L'historien Kirkpatrick Searle souligne que cette période de transformation brutale des processus de production fut d'une rare violence. Violence de l'outil qui rend obsolètes les savoir-faire ouvriers et la culture dont ceux-ci sont porteurs. Violence des patrons et de l'État qui entendent imposer par la force le nouvel ordre productif au nom du progrès économique et déjà de la concurrence. Et si le pouvoir est parvenu à ses fins, cela ne fut pas sans mal, car malgré l'omniprésence des militaires et de leurs espions, les promesses de récompense, rares seront les luddites à tomber victimes de dénonciations. Cela témoignait de la capacité de résistance étonnante de cette communauté. Une communauté et un mouvement qu'il convient de ne pas mythifier pour autant, car ceux-ci sont mués davantage par le conservatisme social et politique que par un idéal révolutionnaire, autrement dit socialiste, qui n'émergera que quelques décennies plus tard, quand le processus de disciplinarisation du prolétariat sera en grande partie achevé. Voilà, c'était Nouvelle Donne Vieille Rengaine, à bientôt sur Alternante FM.